Les pieds sur terre, Sonia Grønlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ce sont les héros d'histoires légendaires avec des sauvetages au milieu des flammes, des enfants rescapés des braises, des chatons arrachés à la mort et surtout des vies sauvées, des cœurs défibrillés, des sirènes à fond et des brancards ruants. Perso, en cas de pépin, j'appelle direct les pompiers qui réalisent en France une intervention toutes les 6,8 secondes et secourent chaque année plus de 3,7 millions de victimes. Mais ce sont en même temps, comme on dit, souvent des mâles alpha incarnant des valeurs de virilité machiste et de violence. Ainsi, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, composée uniquement de militaires, et notamment son équipe de gymnastes, s'est distinguée récemment dans une sordide affaire de bizutage associée à des agressions sexuelles particulièrement glauques commises à l'arrière d'un bus surnommé le Bronx. Vous vous en souvenez peut-être, 3 pompiers ont été condamnés à de la prison ferme et 7 autres ont écopé de sursis. Cité par Libération, l'un des prévenus a expliqué à la barre, le bizutage n'est jamais une partie de plaisir, on y passe tous. Plus la recrue est appréciée, plus son passage dans le Bronx va être long. C'est un peu qui aime bien, châtie bien. Il faut dire, enfin, dans un troisième temps, si on peut dire, que le quotidien des pompiers ne s'est guère amélioré avec les années. Entre 2008 et 2017, le nombre d'agressions sur des pompiers a été multiplié par 3, tandis que les interventions sont en augmentation constante aussi. Et c'est ainsi que le 17 septembre, à l'appel de la CGT du Val-d'Oise, ils ont manifesté à Cergy et comptent également organiser un autre rassemblement le 15 octobre à Paris pour réclamer des moyens et des solutions à leurs difficultés grandissantes. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, 3 histoires de pompiers qui dévoilent, on l'espère, la complexité d'un métier qui fait tant fantasmer. Elles sont racontées par Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Votre conversation sera enregistrée. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel.
Putain, merde. Pour éviter
les enfants. Bonjour.
Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-moi, j'ai de la fumée dans mon grenier.
D'accord, vous habitez où, madame ?
J'habite 10 rue du Bac.
C'est un pavillon ?
C'est un pavillon.
D'accord.
La cheminée qui est en route.
Vous avez une cheminée ?
Oui.
Je vais vous demander. L'insert est fermé ?
L'insert est fermé.
Et vous avez de la fumée ?
Oui, dans le grenier, j'ai peur, monsieur.
De la fumée dans le grenier ?
Oui.
Il y en a beaucoup ?
Oui, et puis ça pue. Il n'y a pas de flamme, a priori.
Est-ce que tout le monde est sorti de la maison, madame ?
Non, on n'est pas sorti, il faut que je réveille les enfants.
Voilà, vous réveillez tout le monde, vous sortez de la maison, je vous envoie une équipe tout de suite.
Merci, monsieur.
D'accord ?
Oui, merci, monsieur.
Voilà.
J'ai commencé en 72, j'avais 17 ans. Bon, le feu, évidemment, je savais pas trop ce que c'était, hein, c'est évident. Mais c'est vrai que quand on est face à de grandes flammes comme ça, on est là uniquement pour le combattre, donc... On a la hargne, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'avais la hargne pour l'éteindre plus vite déjà. Et donc, on prend ça comme un ennemi, hein, et on tape dedans, et voilà, on l'abat. C'est, comment dire, c'est vrai que ça donne de l'adrénaline, c'est clair. Quand au départ, on sait qu'on part pour un feu assez important, on réfléchit pas tout le temps. J'avais tout juste 17 ans. C'était un gros feu de ferme, avec plusieurs centaines, voire milliers de mètres carrés. Et je suis resté sur le feu 36 heures, sans arrêter. Et c'était mon premier gros feu. Alors là, ça brûlait de partout, on avait sauvé les animaux. C'était vraiment important, quoi. Ah oui, et puis c'est impressionnant. Quand c'est le premier feu, on sait à peu près sur quoi on part, mais on ne réalise pas tout à fait. Lorsqu'on arrive, on voit ces énormes flammes de plus de 10 mètres, 12 mètres. Là, on a un petit peu de recul, ce qui est normal. Mais après, on s'est dit, on est là pour ça, on y va. Et après, on ne réfléchit pas, on fonce.
Allô, bonjour, je suis agent immobilier. En fait, je ne suis pas du tout propriétaire, mais là, il y a un garage qui est en train de prendre feu à l'intérieur. Alors, attendez, le nom de la rue, c'est rue du Moulin, à Argentel.
Tiens, vous avez parlé.
Je ne sais pas ce qui est en train de brûler à l'intérieur, mais c'est en train de...
ça brûle dans un garage.
Ah ouais, ça brûle dans un garage, mais ça brûle.
D'accord, donc c'est un
box qui est fermé. Donc quand vous allez ouvrir les portes, à mon avis, moi je vois quelques flammes qui dépassent. Mais...
D'accord, très bien. Bon, on arrive, monsieur. Donc à Argenteuil, rue du Moulin au 14. Hein.
Chef du groupe Major Calvez pour Codis 95, prenez message du collationné, vous dirigez sur la commune d'Argenteuil pour un feu de garage, un box accolé au pavillon reçu.
Les pompiers, j'écoute, quelle est votre urgence?
Allô, ma maman, elle est tombée parce que elle se sent pas bien.
Elle arrive à parler, ta maman?
Non.
Tu es à quelle adresse?
J'habite au 15 rue Lacancini.
Lacancini?
Non, 15 rue Lacancini.
Elle a quel âge ta maman, tu sais ou pas?
Elle a 26 ans.
Et toi, tu as quel âge?
5 ans.
D'accord. Et là, ta maman, elle te répond ou pas?
Non, elle répond pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu? Elle a crié, elle a fait quoi ta maman?
Elle a pas crié. En fait, elle s'est relevée deux fois, après elle est tombée.
Au moment où je te parle, là, les pompiers, on est en route, d'accord? On va venir voir ta maman au 15 rue de Lacancini, d'accord? On arrive. Moi, je voudrais que tu me dises quelque chose, là, sur ta maman. Elle est allongée sur le dos?
Je vois le pied par terre.
Et d'accord. Et est-ce que tu es capable de la tourner, de la mettre sur le côté, ta maman? C'est possible ou pas?
J'ai pas assez de force.
T'as pas assez de force. Tu vas écouter ce que je te dis, là, d'accord? Il y a d'autres appartements, là, où tu habites, au rez-de-chaussée. Tu vas aller taper très, très fort dans toutes les portes, d'accord? Que tu vois en face de toi et sur les côtés. Tu donnes des coups de poing et des coups de pied dans les portes, d'accord? Tu fais ça à la première porte, tu vas faire ça à la deuxième également, à la troisième, et tu gardes le téléphone, tu m'écoutes toujours, d'accord?
Je suis le caporal-chef Jesse, j'ai 18 ans de service, et ça fait donc 4 ans que je suis affecté au centre opérationnel. Le 6 juillet, vers 19h, je prends un appel d'un enfant. Rapidement, je me rends compte que c'est un enfant qui est très jeune, qui m'appelle pour sa maman qui, a priori, est tombée au sol et ne lui répond plus. Et donc, à la fin, on se rend compte que finalement, l'équipe qui intervient nous rassure en disant que la maman est de nouveau consciente. Tout finit bien, finalement. Et cet appel prouve que le numéro d'urgence, c'est quelque chose vraiment d'indispensable et qu'on devrait connaître à partir de n'importe quel âge. Ça peut vraiment sauver des vies.
Avec l'intersyndicale nationale des sapeurs-pompiers, on va se mettre en marche, je crois que c'est par là. Mais nous, une vraie marche. Voilà.
Et tout le monde peut prendre le pari. Et je voulais vous dire, on est là et on lâchera pas. On est là parce que c'est notre vie à nous qu'on défend.
On est devant l'agence régionale de la santé, à Cergy-Pontoise, avec les personnels hospitaliers, les sapeurs-pompiers et la population. C'est étonnant de voir des pompiers en tenue manifester dans la rue, à savoir qu'on n'a pas le droit normalement d'être en tenue, mais ce droit on le prend parce qu'on n'a aucune visibilité. Il n'y a pas longtemps on avait mis des brassards, on a essayé de nous punir par rapport au port des brassards. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour dire attention, bientôt vous n'aurez plus de service de secours et ce sera du privé et les plus démunis de notre pays, il y aura une différence au niveau du maillage territorial qui est déjà fort prégnante aujourd'hui mais qui sera encore plus accentuée demain.
On voit des gendarmes aux fenêtres qui ont l'air de nous soutenir. C'est très bien. On s'y attendait pas en plus de la part des gendarmes, donc c'est cool. J'ai 33 ans.
Ça fait combien de temps que vous êtes sapeur-pompier ?
15 ans. Voilà. J'ai commencé pompier. J'ai jamais voulu faire autre chose. Et malheureusement, moi, comme certains de mes collègues, ce métier passion, en fait, ça attaque nos convictions les plus profondes parce qu'on n'est plus en mesure de le réaliser comme on a voulu le faire. Et aujourd'hui, les situations où on n'est pas en mesure de le faire se multiplient. Moi, j'ai assisté à un départ pour un incendie avéré d'un pavillon sur lequel, en général, on a, je vais simplifier, hein, deux équipes incendie plus une équipe avec une grande échelle. Et ils se sont retrouvés avec un seul camion d'incendie qui est normalement armé à 6 personnes. Et là, ils étaient que deux. Un pour conduire le camion et un pour diriger le camion. Donc, arrivé sur place, à part se mettre en danger, ce qu'ils ont fait parce que la situation l'imposait, bah, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Voilà. Ils ont pris le plus de mesures conservatoires qu'ils pouvaient, à savoir d'évacuer la population, d'éviter qu'il y ait une propagation du sinistre aux habitations adjacentes, en attendant des renforts qui sont arrivés par miracle et par pur hasard. C'était une équipe qui rentrait à sa caserne qui passait par là. Et heureusement, ça s'est bien passé. Heureusement.
Il y a un cadet là, qui est juste là. Il y a des sandwichs et du café dedans.
Bonjour. Waouh. Ça fait peur. Un pompier qui met le feu, c'est grave.
On va dire que la mobilisation a dépassé nos espérances.
Ils sont là pour nous tout le temps, donc je suis là pour eux. Voilà. Et comme j'ai écrit là, sur mon petit papier, lorsque les infirmières et les pompiers sont en danger, c'est nous qu'ils sommes aussi.
La population nous aime et nous respecte, sauf qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, on est en danger, et eux aussi. Ce clivage qu'il y a, cette différence qu'il y a entre ce que la population pense de nous et la vie qu'on vit tous les jours. En fait, ils ont toujours l'impression qu'on est efficace et on essaye au maximum de se le rendre, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de l'être, et c'est pour ça qu'on vient crier au secours dans la rue. Les pompiers vivent pas vieux à la fin de leur carrière. Il y a eu aussi un feu à Saint-Ouen-l'Aumône, ça parlera aux Val-d'Oisiens, un feu d'une entreprise chimique à Saint-Ouen-l'Aumône, où les pompiers ont été énormément exposés aux fumées, et à la suite, par exemple, il n'y a eu aucune prise de sang faite sur aucun sapeur-pompier, alors qu'on sait pertinemment que des fumées de piles au lithium, ils auront du mal à nous expliquer qu'elles sont propres. Il faut bien savoir que le monde de pompiers, il est divisé en deux aujourd'hui. Il y a ceux qui nous dirigent, qui dirigent les sapeurs-pompiers, les SDIS, comme des entreprises, et ceux qui vivent le métier. Et ces gens-là qui dirigent ont par exemple la même prime de feu que nous. Et sur la reconnaissance du métier à risque, est-ce que vous ne trouvez pas ça ubuesque que les sapeurs-pompiers ne soient pas reconnus comme un métier à risque? C'est complètement fou en fait. Faire 2256 heures payer 1607 avec les risques de cancer, avec les fumées d'incendie et autres, forcément ça attire plus. Donc il faut une vraie reconnaissance.
Je suis dans ma 20e année. En 20 ans, on a largement eu le temps de voir le service public se dégrader. On a une explosion des agressions en France sur les sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être du caillassage, un mauvais accueil. Des fois, les gens ne comprennent pas forcément qu'on mette 10 minutes pour arriver sur intervention. Malheureusement, aujourd'hui, avec le manque d'effectifs, c'est des camions qui partent plus. Du coup, ça retarde la distribution des secours.
Pardon monsieur, bonjour, je vous interromps, mais un pompier blessé avec le bras en écharpe, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, c'est en sport, je me suis blessé au niveau de trop d'efforts. Et voilà, on continue comme ça. Et je suis pas arrêté. Je suis au travail tout à l'heure.
Vous êtes droitier?
Oui.
Vous avez votre bras droit en écharpe?
Tout à fait. Continue. C'est pas la première fois, des fois on est plâtré et on continue le travail. C'est déjà arrivé. On continue à travailler malgré les blessures, malgré les choses comme ça, parce qu'on n'a pas envie de laisser les collègues. L'état d'esprit, le corps subi. Psychologiquement, les collègues ramassent sans arrêt. J'ai 48 ans, mais je ne vais pas vous dire où je travaille, parce que j'aurai des représailles. Ah, c'est sûr. Aujourd'hui, on a de plus en plus de burn-out dans notre métier, notre corporation. Déclaré ou non déclaré, et on voit bien dans le système des fois, même si c'est déguisé, des méthodes de chantage, harcèlement ou des choses comme ça par notre hiérarchie, il faut voir, c'est très compliqué. J'ai même des collègues qui venaient me voir et qui me disaient « mais qu'est-ce qu'ils ont contre toi ?» On ne s'en rend même plus compte.
Qu'est-ce qui se passait?
C'est toujours des brimades, des choses comme ça, des comptes rendus qu'on découvre dans nos dossiers, on n'est même pas au courant, donc ce qui est complètement illégal. Une hiérarchie qui est toujours derrière vous, en train de vous surveiller, de voir, alors que notre travail, on le fait avec un professionnalisme. Et, plus on est passionné, et plus on a envie de partir. Je me pose beaucoup de questions, bien sûr, comme tous mes collègues. Mais faire quoi? C'est quand on a 48 ans, quand on a fait ça toute notre vie, c'est pas évident après de retrouver autre chose. Partir, c'est un côté échec.
Donc, merci à tous d'être venus. Et puis, on lâche rien, les camarades. On vous entend pas!
Je m'appelle Evelyne, je suis en aide à domicile. Mon mari est routier, je suis maman de 5 enfants et ma fille aînée, Lauriane, à l'âge de 5 ans, se met face à son père qui est pompier volontaire et qui va partir pour un défilé. Et elle lui dit « Je serai un grand pompier, papa ». Et bon voilà, on n'y croit pas vraiment, hein, c'est une enfant. Elle a un oncle qui est passionné par ça, donc elle se rapproche de lui, elle parle pompier, elle vit pompier. Ses cadeaux de Noël, c'est un camion de pompier. Lauriane est une passionnée, c'est comme si elle était née avec un casque sur la tête pour moi. Lauriane grandit, sachant que j'ai 5 enfants, je ne peux pas tout gérer, donc je lui demande de choisir entre la gym, qu'elle adorait, ou les jeunes sapeurs-pompiers. Je serai jeune sapeur-pompier. Elle prend cet engagement à l'âge de 9 ans. Et sa vie sera rythmée chaque samedi. Alors au départ, on roule des tuyaux. Voilà, c'est mettre en place des lances pour éteindre les feux, travailler en binôme, comment se servir d'une échelle, comment la monter, comment la descendre. Voilà. Elle s'exerce à la maison, on rit beaucoup. Elle nous fait des sorties de feu en urgence. Voilà, elle vous prend par les pieds, vous emmène dehors. Pour elle, c'était très sérieux. Mais ils ont chaque année des choses à passer, des paliers. Alors JSP1, JSP2, JSP3. Et enfin, on obtient un brevet de cadet qui doit avoir lieu aux alentours des 15 ans. C'est ce qu'elle fait. Et on l'encourage, quoi. Suite à ça, elle va terminer ses études. Et elle va prendre surtout l'engagement volontaire civil sur la caserne du Puy. C'est-à-dire qu'elle va partir à chaque intervention. Elle va travailler de nuit, elle va travailler de jour comme un pompier professionnel pendant 8 mois. C'est l'année de ses 20 ans. Pendant qu'elle est volontaire civile, elle se prépare pour ce concours pompier pro qui arrive l'année suivante. C'est tout ce qui est question pompier, le feu, le secourisme, les grades, les choses comme ça, quoi. On fait des dictées, elle a acheté l'orthographe des nuls, on la potasse, on reprend les règles de grammaire. Alors l'épreuve de sport, il y avait du kili, on doit rester assis en chaise, hein, et pour avoir 20 sur 20, on doit rester 4 minutes. Chose qu'elle réussissait beaucoup. Il y avait du gainage, des tractions. Et voilà, elle a réussi ce concours pompier professionnel. Donc c'est super, on est super contents. Et elle, d'autant plus. Lauriane fait 1m60, elle a des cheveux longs, c'est typique la petite minette. Quand on la voit dans la vie de tous les jours, elle ne ressemble pas du tout à un pompier. Elle a de grands yeux bleus, elle aime se maquiller, elle est féminine. Petite Lauriane n'avait déjà pas beaucoup de poitrine, donc là, du coup, elle n'a plus rien. Parce que je sais qu'elle développe beaucoup le haut, qu'elle a beaucoup de force dans les bras. Donc après cette obtention, on doit chercher son travail. Une caserne, une ville qui l'accueille. Donc Lauriane est prête à aller partout en France. Voir ma fille finalement qui rentrait dans un métier où il y avait la rigueur et tout ça, c'était quelque chose que j'admirais, quoi. Elle va travailler longtemps en usine, usine plastique. On prend un peu ce qu'on trouve chez nous, on est un bassin où il y a beaucoup de plastique. Donc elle travaille en usine, hein, tout en recherchant ses places. Donc elle doit être toujours au top, hein. Si jamais je suis appelée, si jamais une place se présente. Donc elle fait tout le temps du sport. En novembre, on va l'appeler et on va lui dire qu'elle est engagée en tant que pompier professionnel. Mais avant d'attribuer ce poste, on va devoir faire une formation qui dure 3 mois. On repasse tout. En tant que pompier professionnel, on doit faire la formation initiale, c'est-à-dire tout ce qui est secourisme, feu. Donc Lauriane va rentrer à l'école de Feneux le 1er février 2016. C'est une petite ville à côté d'Angers. C'est là où le service d'incendie et de secours, le SDIS donc, du Maine-et-Loire, a son centre de formation pour leurs pompiers professionnels. Je crois qu'ils étaient 18 en formation. Elle sera interne. Elle devra rester sur ce lieu de formation du lundi au vendredi soir. Elles étaient 2 femmes. Elles sont dans la même chambre. Tout va bien. Chaque examen qu'elle passe, qu'elle réussit, elle m'appelle, elle me dit « oui, ça s'est bien passé, là, non, pas forcément, là, j'ai fait un lot de sauvetage, j'ai merdé, je me suis agacée contre mon binôme, parce que pour moi, ce qu'il faisait, ça n'allait pas. » Donc elle raconte.
Elle prévoit, est-ce que je vais louer une maison, est-ce que je vais louer un appartement. Elle se renseigne, elle regarde les tarifs, ça va. Je vais dire qu'on arrive début mars et là je la vois un peu plus fatiguée. Alors je lui demande si tout va bien. Ouais, cette semaine, voilà. Bon, elle revient, nous deux week-ends, disons que ouais, cette semaine, pas super. Et là, Lauriane me dit c'est toujours lui. C'est lui. Lui. Et toujours, c'est ce qu'elle dit, il me casse les couilles. Lui, je ne sais pas qui c'est. Pour moi, c'est un formateur avec qui ça ne passe pas forcément. Sinon, le reste, tout va bien. Ça va, Lauriane ? Oui, tout va bien. C'est lui. Oh, c'est encore cette semaine. Mais c'est aléatoire. Elle en parle comme ça. Voilà, elle raconte que beaucoup de pompiers se blessent. Au niveau sportif, il y a des blessures qui se font parce qu'on pousse quand même quelque part. C'est beaucoup de sport, donc beaucoup se font des déchirures. Elle se blesse sur une épreuve de course qui a lieu avec sa formation initiale. Fin mars, semaine avant de rentrer à la maison, parce que la formation initiale leur a donné une semaine de repos. Donc elle se repose, elle prend. Elle me fait toucher sa cuisse arrière et je constate effectivement que sur une jambe, il y a une contracture qui fait une boule. À ce moment-là, pendant cette semaine-là, elle va beaucoup réviser parce qu'elle a d'autres choses à passer. Après, elle va travailler encore ses bras, faire des tractions. Elle a une barre de traction à la maison, elle va faire des pompes. Elle va essayer de ne pas perdre ses acquis. Par contre, elle ne fait plus de course. Elle ne peut pas. Elle allait voir son médecin qui lui prescrit 8 jours d'arrêt de sport. On est le 1er avril. La formation se termine le 18 avril. Son casque doit lui être remis. Ce qui signifie la réussite de la formation initiale. Lauriane me dit il est temps que ça se termine. J'ai fini jeudi. Et après, je ne le verrai plus. Puisque de toute façon, il fait partie des formateurs de la formation initiale et je ne le verrai plus parce que j'aurai ma caserne. Elle me dit, c'est comme ça avec lui depuis le début, tout est prétexte à me coincer. Il me pousse à bout et de toute façon, tu sais, c'est comme le prof qui ne t'aime pas à l'école et tu ne connais pas les raisons. Il passera lundi, le mardi, on se prépare à monter sur Angers. Tout est programmé. Le mercredi, je suis en pleine séance de repassage. Et là, on sonne à ma porte. On vient m'annoncer à 9h le matin que ma fille est décédée, qu'elle s'est pendue sur son lieu de travail. Avec son ceinturon de pompier. J'apprendrai par la suite que Lauriane a remis son certificat d'arrêt de 8 jours pour cette blessure de la cuisse, ce certificat d'arrêt de sport. La semaine qui suit, ce certificat n'est plus valide. Et là, Lauriane elle allait voir son médecin et entre ces deux certificats, il manquait une semaine. Apparemment, on lui aurait demandé 4 fois à ce qu'elle le donne. Et après l'assistance de cet homme, ce formateur, elle falsifie quoi ? Ce certificat. J'apprendrai par la suite qu'un jeune de la formation initiale s'est blessé chez lui. En rentrant chez lui le week-end, il avait une entorse. Ce jeune homme, on ne lui a jamais demandé de certificat. Elle s'est blessée lors de sa formation. Et on exige à maintes reprises un certificat. Elle reconnaît qu'elle a falsifié, elle pleure beaucoup, elle s'excuse, elle n'a aucune aide. Elle a 23 ans, elle ne sait pas qu'elle aurait dû être, au moment de sa blessure, déclarée en accident du travail. Et on va lui signifier son licenciement oralement. À 2 fois, on lui a répondu que son sort était scellé. Elle ne serait plus jamais pompier. Pour moi, non seulement c'est du harcèlement, mais c'est de la non-assistance. On est chez les pompiers, On sait comment intervenir face à des gens désemparés. On vous l'apprend. Cette sanction disciplinaire devait être accompagnée. Lauriane, on l'a laissée. Je crois que c'est ce qui me mettra le plus en colère, c'est qu'elle n'ait pas eu d'aide. Mais c'est l'omerta. Le pompier ne se suicide pas sur son lieu de travail et surtout, son métier n'est pas en cause. Dans ma tête, c'est « ils sont responsables » et je demande juste qu'ils prennent leurs responsabilités. Je veux qu'elle soit reconnue en accident de service, ce qui veut dire pour le pompier mort au feu. C'est l'équivalent de l'accident du travail. On va aller voir sur le plan cadastre si l'arbre auquel elle s'est pendue appartient bien à la propriété du SDIS, c'est-à-dire que on va chercher le plan cadastral et on va se rendre compte que l'arbre est à côté de la parcelle du SDIS, qu'après tout, elle s'est suicidée avec ses propres vêtements civils, elle n'était pas en tenue de sapeur-pompier. Ils diront qu'elle n'était pas dans les heures de formation, que son objet de pendaison, le ceinturon de pompier. Par la suite, on me dira qu'elle s'est pendue avec ses sangles TRX. Les sangles TRX sont des sangles qu'on travaille avec ses sangles avec le poids du corps. C'est ce qui sert aux militaires pour travailler. Aujourd'hui, ça fait trois ans que je me bats pour cette reconnaissance. Et c'est la seule chose que je veux. C'est un métier que j'admirais vraiment, que je commence à essayer de regarder à nouveau. Pendant 3 ans, il m'a fait horreur. Voir un camion rouge et une sirène de pompiers, je ne supportais plus. Maintenant, ça va mieux. Je commence à les aimer à nouveau.
Les pompiers en danger, un reportage de Valérie Borst réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Evelyne, à Malio, à Dan Israël, à Olivier Garraud, à Sébastien Delavoux, à Peter Gouroun Chaga, à Yannick Ténézi, à Johanna, aux pompiers de Paris. Il y avait aussi une archive de Delphine Saltel. L'attachée de production, c'est Mélissa Foust et le stagiaire s'appelle Lorenzo Cucchiaro.